Nous entendons une première lecture dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36, les versets 25 à 27.
Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites.
La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, verset 19 à 31.
Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un. Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu ? Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Et ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors si vous croyez, vous aurez la vie par lui.
Quand il faut expliquer la résurrection à quelqu'un, il faut toujours s'y prendre à plusieurs reprises. Il faut être insistant. Et les récits, notamment celui de Jean que nous venons de relire, le montrent encore une fois. Les récits qui entourent la résurrection ne s'imposent pas d'un seul bloc. Ils se déploient petit à petit, par étapes, comme si la compréhension devait mûrir petit à petit. Il y a d'abord le constat déroutant du tombeau vide, ça c'était la semaine dernière, et vous en êtes, j'imagine, maintenant remis, hein, au matin de Pâques. Et puis, il y a ensuite des rencontres inattendues, les rencontres du ressuscité, toutes différentes, ici chez Jean, et puis si on l'étend aux autres évangiles également, toujours inattendues. Et puis se dessine ce qui en découle petit à petit. Il y a l'après qui a déjà été préparé puisque ça continue. Une existence nouvelle portée par une communauté en devenir, même si elle a peur et qu'elle est cloîtrée, elle est déjà là. Rassemblée autour d'une parole laissée par celui qui, tout en s'absentant, refuse de disparaître complètement. C'est un mouvement un peu étrange que Jésus fait. Il s'efface, puis se manifeste à nouveau, avant de s'éclipser encore, mais autrement. Il y a là une sorte de passage, de transformation. L'homme Jésus meurt, et c'est le ressuscité qui se donne à connaître et à reconnaître. Puis le ressuscité lui-même se retire, afin de confier au sien une parole qui est appelée à durer. Il est revenu. Encore et encore, sous une autre forme. Cette parole est en apparence fragile, elle se révèle pourtant d'une persistance étonnante, puisque nous l'écoutons encore aujourd'hui. Ni les pierres d'un tombeau, ni les verrous des hommes ne peuvent la contenir durablement, encore moins la faire disparaître. Nous nous souvenons de l'incompréhension qui entoure l'entrée de Jésus à Jérusalem. Hosanna au fils de David, c'est ça qu'on attend de lui. C'est une manière de dire, prends donc place sur le trône, accomplis nos attentes, une partie de nos attentes. Prends ta place sur le trône, restaure une royauté visible. Mais nous le savons, une fois que cette entrée sera faite, rien ne se déroulera comme prévu. Ce qui advient ressemble, dans un premier temps, à un ratage, un échec, une rupture brutale. Nous attendions cela, nous aurons droit à autre chose. Rien ne se passe comme prévu. Et pourtant, il n'y a pas d'erreur de trajectoire. Le projet de Jésus n'était pas celui qu'on imaginait. Il ne s'agissait pas de prendre le pouvoir, mais de transmettre une parole appelée à devenir présence de Dieu au cœur même de l'humain. Eh bien, ça y est. Même si ce n'est pas ce qui était attendu, en tout cas pas sous cette forme-là. Cette promesse n'apparaît pas soudainement. Elle s'inscrit dans une mémoire déjà longue. Les disciples ne sont pas les premiers à attendre que Dieu intervienne dans leur vie et leur histoire. C'est la longue mémoire des prophètes en particulier. Ces interventions pas forcément souhaitées ni par le pouvoir, ni religieux, ni politique, mais qui avaient pourtant lieu avec une parole forte. Le porteur de cette parole était d'ailleurs souvent en grand danger. Bien avant ces événements, certaines paroles avaient déjà esquissé ce déplacement. Mais elles avaient souvent été réduites à une attente politique ou nationale. Jésus vient réactiver cette profondeur oubliée du prophétisme. Ni le pouvoir royal, ni le pouvoir sacerdotal, mais quelque chose qui s'insère entre les deux et qui vient aiguillonner et l'un et l'autre pour leur rappeler que très souvent, ils ne sont pas à la hauteur des événements. Jésus réactive cela et il accomplit à sa manière cette annonce d'un Dieu qui ne se limite plus à des lieux connus ou des institutions bien stables, bien imposées par le temps, mais qui vient habiter là où il l'a souhaité et surtout chez chacun d'entre nous. La présence de Dieu n'est plus enfermée dans de la pierre parce que les temples et les monuments finissent toujours par se fissurer et tomber. Elle est déposée dans la chair, encore plus fragile, mais qui, elle, peut mettre au monde derrière elle des gens qui reprennent cette parole. Elle est plus solide, finalement. La parole dans la chair, plutôt qu'enfermée dans la pierre, dans la vie même des personnes. Ça y est, nous y sommes. Ce qui était extérieur devient intérieur. Nous l'emmenons, nous l'emportons avec nous. Ce qui semblait distant devient intime. Plus possible de retenir Jésus dans un tombeau, ça c'est fait. Plus possible de contenir Dieu dans un édifice, ça aussi c'était fait depuis longtemps. Une parole intégrée au plus profond de nous échappe à toute tentative d'enfermement, même si nous sommes plus éphémères. Quand Jean raconte l'apparition de Jésus aux disciples, il nous propose un peu sa propre manière de dire cette deuxième étape, parce que nous en sommes là. Son langage, sa sensibilité, son style donnent à cet épisode une tonalité assez particulière. Ici, nous entendons ce texte chaque année, bien sûr, mais on nous place devant un basculement décisif. Il s'agit de comprendre que ce qui vient de se produire n'est pas une perte irréparable, mais un accomplissement, une ouverture inattendue. Il est même question d'une forme de libération et peut-être d'abord d'une libération de Dieu lui-même avant la nôtre. Les disciples sont enfermés, repliés, paralysés par la peur. Ils ont de bonnes raisons pour cela. Ils sont traqués. Ils ont verrouillé les portes comme pour se protéger d'un danger extérieur. Et c'est précisément là, dans cet espace fermé, volontairement, que Jésus se tient au milieu d'eux, avec une présence toute particulière qui ne dépend pas des conditions matérielles. Aucune porte ne peut lui barrer le passage. Il ira les chercher au fin fond de leur découragement. Et puis, parce qu'il est auprès d'eux, et que c'était l'essentiel, qu'il soit de nouveau audible, visible par eux, puis bientôt palpable par Thomas. Ensuite vient l'envoi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais dans le même mouvement, ils reçoivent l'Esprit. Tout se passe comme si la Pentecôte se produisait déjà, alors qu'on est un peu en avance sur le calendrier. Déjà, de manière anticipée, le souffle, l'Esprit est déjà sur eux. Ce qui est donné ici prépare ce qui viendra ensuite. Cette communauté toute petite et apeurée est appelée à sortir d'elle-même et à entrer dans une dynamique d'ouverture. Ce sont les disciples autrefois qui sont concernés, et c'est nous aujourd'hui qui sommes concernés par ce même souffle qui nous chassera dehors pour aller faire ce que nous avons à y faire. L'intérieur de la maison est un abri, mais précaire finalement. Quelle troupe bien armée n'aurait pas pu défoncer cette porte ? C'est un refuge provisoire, compréhensible dans un moment de trouble. Tant qu'on ne sait pas qu'on est là, personne ne cassera la porte. À l'extérieur, il y a l'inconnu, le risque, le danger, peut-être la menace, pour eux c'est certain, pour nous le risque de ne pas être compris, et bien d'autres encore. Entre les deux, il y a les murs, les portes, tout ce qui sépare et protège en même temps. Ces images font écho à d'autres enfermements, celui du tombeau, celui des maisons fermées comme celle-ci, autant de lieux où la vie semble retenue, comme si elle ne pouvait pas se déployer, parce qu'elle-même ne le souhaite pas, pas encore. Et pourtant, ces récits suggèrent que la vie ne se trouve pas du côté de l'enfermement. Ils n'ont pas fini leur vie dans cette petite pièce, les disciples. La vie appelle au dehors. Il y a une parole à partager, une bonne nouvelle à porter à d'autres. Le temps du secret touche à sa fin. Ouvrir les portes devient un symbole fort, celui d'une parole qui rend libre, qui circule, qui ne peut plus être retenu. Délivrer un message, c'est bien faire sortir quelques mots de leur captivité. Mais cette sortie ne se fait pas sans hésitation. Il faut du temps pour être prêt, il faut une maturation intérieure. Et le personnage dans ce récit, celui de Jean, qui montre le mieux cette hésitation, c'est Thomas. Lui aussi, il y va par étapes, pas tout d'un coup. Il a raison. Il incarne une difficulté, une hésitation, ce sont les nôtres aussi. Il ne se contente pas de dire ce que disent les autres, on l'a vu, il est ressuscité, mais puisqu'on te dit que, les témoignages ne lui suffisent pas à lui. Il ne veut pas de quelque chose d'indirect, il veut une expérience directe, une rencontre personnelle. C'est bien aussi. Sa demande peut sembler bizarre, exigeante, excessive, mais elle traduit quand même un désir de vérité. On a fait de Thomas l'image même de l'incroyant, celui qui veut toucher les reliques, les petits bouts de bois. C'est injuste quand même. À l'heure des fake news, nous aurions bien besoin de lui. Lui veut rencontrer lui-même les sources, leur poser ses questions à lui. Il veut faire les recoupements avant d'annoncer quelque chose. C'est bien aussi. Thomas refuse les médiations, il veut du direct. Il l'aura. Il veut toucher, vérifier. Jésus accepte de répondre à cette attente. Pas comme un pis-aller. Oh. Bon, puisque je suis là. Mais parce que tu as raison aussi de vouloir le vrai, Thomas. Il offre à Thomas ce qu'il réclame parce que c'est une demande de vérité. Les signes sont là, visibles, accessibles, et Thomas peut retrouver confiance. Nous sommes tous à la place de Thomas. Nous aussi, nous aimerions bien voir, recouper, vérifier. Heureusement. Mais l'épisode ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une seconde apparition. La première, Thomas n'était pas là pour faire son petit numéro de casse-pied exigeant. La seconde apparition a lieu dans le même cadre, toujours aussi fermé, parce que les autres sont les premiers témoins, ils sont convaincus, mais sont toujours aussi peureux. Cette fois, une parole vient ouvrir un horizon un peu plus large. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. On a l'impression qu'il ne manquait plus que Thomas pour que cette parole qui est dite à lui soit dite à tous les autres et que ça enfin les décide à sortir de chez eux. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas n'est pas disqualifié, il indique un passage, il est peut-être le premier. C'est drôle d'être un premier de cordée quand on est arrivé en retard, mais c'est comme ça pour Thomas. Il indique l'endroit où se trouve la porte. Celui qui Ce passage qui s'opère entre une foi fondée sur une vision directe et une foi appelée à vivre autrement, et qui, celle-ci, nous atteint malgré nos certitudes, nos peurs, nos craintes, elle nous atteint à un moment ou à un autre. Thomas est le dernier représentant d'un temps ancien où on parlait à Dieu en tête à tête. Vous le savez, il y en a eu beaucoup d'autres comme ça. Adam, Ève, Caïn, Moïse. Et après avoir parlé à un Dieu dans un endroit bien précis, ils ont tous été priés de décamper pour aller ailleurs, parce qu'ils étaient attendus ailleurs. Ce qui arrive à Thomas marque une transition. Après lui, il faudra apprendre à vivre autrement. Pas en renonçant à la source, parce qu'elle est toujours accessible, même si elle est un peu plus loin, mais en acceptant qu'elle ne soit plus accessible de la même manière. Il faudra consentir à une certaine obscurité, une forme de brouillard, découvrir que ça n'empêche pas de croire ni de vivre, bien au contraire. Double mouvement de lâcher prise du côté humain, parce qu'il faut accepter que l'éloignement soit la pure normalité, pas une anomalie, une bizarrerie, mais notre condition normale. La distance fait partie de la relation, pas une punition donc, mais une manière de préserver la liberté. Et puis du côté de Dieu aussi, il y a un retrait qui s'opère. La distance se creuse un peu, pas assez pour ne plus se parler, parce que la présence ne s'impose pas avec l'évidence ou avec la force d'un commandement, même celle de Dieu, apparemment. Comme si la proximité trop intense risquait d'écraser, de détruire. La distance, c'est une forme de délicatesse. Il faut peut-être relire le bannissement d'Adam et Ève ou l'éloignement de Caïn aussi sous cet angle-là. Une manière de rendre possible une relation vivante où on peut s'approcher, se prendre dans les bras, s'embrasser et aussi s'éloigner pour se bouder un peu parce que ça arrive. Les deux apparitions de Jésus dans le récit viennent rappeler ça. Croire, c'est avancer sans voir de manière immédiate. C'est faire confiance à une parole et à une promesse. C'est accepter de ne pas posséder la vérité, de ne pas la tenir pour captive. Et puis, tous les gens qui ont été enfermés dans leurs propres convictions savent que quand ils ont pensé détenir une conviction, ils se sont aperçus que c'est eux qui étaient des détenus. Ils étaient eux-mêmes prisonniers de leur propre idée. Là encore, se décentrer un petit peu, prendre de la distance, c'est commencer déjà à respirer. Si nous entrons dans cette compréhension des choses, quelque chose s'ouvre. Nous sortons non seulement du tombeau vide, mais aussi de nos propres enfermements intérieurs. Ça, c'est bienvenu. Nous nous éloignons de nos illusions de maîtrise, de notre désir de tout comprendre, de tout saisir. Et dans cet espace de liberté, nous pouvons accueillir les signes de vie, les fragments de bonnes nouvelles qui jalonnent petit à petit nos existences. Ces fragments ne sont pas à garder pour soi, bien sûr. Ils sont appelés à être partagés. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est ça justement, une parole vivante déposée en nous, dans un cœur de chair, comme le dit Ézéchiel. C'est-à-dire moins durable que les temples de pierre, plus éphémère, plus dégradable, plus mortel. Et alors, Dieu a choisi d'être dans la chair. La bonne nouvelle ne peut pas rester enfermée, elle se ferait toujours un passage, et pour qu'elle se ferait un passage, il ne faut pas de la pierre, il faut peut-être une chair fragile pour qu'elle puisse entrer, être comprise et passer par nos bouches, sortir pour que d'autres l'entendent. La rencontre avec le ressuscité ouvre un temps nouveau. Nous sommes dans l'après-Pâques, un temps de liberté où chacun est appelé à devenir porteur de cette parole. Un temps qui regarde déjà dans ce texte vers la Pentecôte, parce qu'il y a déjà du souffle et du don de l'Esprit. Un temps où l'annonce prend des formes nouvelles, multiples, où la bonne nouvelle se décline dans des gestes et des paroles, des engagements. L'heure donc n'est plus à la rétention, plus rien n'est enfermé après Pâques. Si même un tombeau peut s'ouvrir, nos bouches aussi. L'heure est à la transmission, quelque chose a été confié et ça demande à être communiqué, pas comme une certitude figée, mais comme une parole vivante qui s'offre à la discussion, à la négociation, à l'acceptation comme au rejet. Elle prend ce risque-là. Une parole qui continue de faire naître, aujourd'hui encore, des chemins d'espérance. C'est bien dans cet esprit que nous pouvons entendre, pour nous aujourd'hui aussi, un appel très concret. Si la parole est appelée à circuler, à sortir de nos lieux clos, où on peut se trouver bien finalement, et par crainte du dehors en plus. Alors elle nous conduit naturellement vers celles et ceux qui cherchent, qui questionnent, qui construisent leur avenir. Les projets d'aumônerie sur le plateau de Saclay s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Ce n'est pas une simple extension de nos activités sur un territoire un peu plus large. C'est plus que ça. C'est autre chose. C'est une manière d'habiter ce mouvement d'ouverture auquel nous sommes conviés. Aller à la rencontre des étudiants, des jeunes, c'est accepter d'entrer dans des espaces où la foi, la leur, ne va pas de soi, où elle se discute, elle se confronte, elle se transforme. Parce que c'est le lieu, parce qu'ils en ont l'âge, parce que c'est le moment. C'est reconnaître que la parole de l'Évangile n'a rien à craindre de l'intelligence, ni de la liberté, au contraire. Elle demande à être explorée, interrogée, mise à l'épreuve, afin de déployer toute sa richesse. Mais nous portons aussi le désir de mieux partager ce qui nous anime, un attachement à une lecture des Écritures qui est à la fois exigeante et ouverte, respectueuse de la raison autant que de la foi, attentive aux questions d'aujourd'hui, une étude qui ne cherche pas à enfermer, mais au contraire à libérer, où il y a autant de prises de parole que de participants autour de la table, une parole qui ne s'impose pas, mais qui se propose. Peut-être que c'est là, très concrètement, notre manière à nous de poursuivre ce que l'Évangile nous confie, laisser les portes s'ouvrir, risquer la rencontre, faire confiance à cette parole qui, depuis Pâques, ne cesse et ne cessera plus de circuler. Et croire qu'au cœur même de ces échanges, de ces recherches, de ces engagements, quelque chose du souffle, de l'esprit reçu ce soir-là, continue de se transmettre et de faire vivre. Amen.